les prochaines secondes, on va parler avec David Chabot, notre chroniqueur international. Il va nous expliquer bien les affaires comme à son habitude. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021. C'est 10 degrés sur Québec. Je vais juste faire un petit refresh sur le site d'Environnement Canada. C'est 12, voilà. Donc, on a gagné 12 degrés actuellement. C'est ça de gagner. Maximum de 17 pour ce qui est d'aujourd'hui. Ce soir, des averses entre 10 et 15 mm annoncées, minimum de 13 degrés. Demain, des averses qui devraient cesser en matinée avec un max de 23. Et dimanche, on parle d'une alternance de soleil-nuages avec un maximum de 21. David Chabot, salut!
Salut!
Comment ça va, mon ami?
Ça va, toi?
Ouais, t'as-tu passé un beau week-end?
Ben oui, oui, hier, c'était...
Le football!
Le worship of the football.
Oui? Oh. Quel match que t'as le plus apprécié? Moi, j'ai regardé un peu les Bears hier contre les Cowboys, hein?
Ouais. Puis, Cowboys ont de la misère défensivement.
Ah, ouais, puis j'ai la fin de match. À un moment donné, j'ai décroché. Il n'y avait plus rien à regarder.
Surprenant Caleb Williams, quand même.
Oui, quand même.
Capable du meilleur comme du pire.
Oui, c'est ça. Une bonne performance hier. C'est drôle, tu dis capable du meilleur comme du pire parce que j'étais chez mes parents puis on se disait, bon, quand est-ce que l'interception va arriver? Finalement, il n'est jamais arrivé hier.
Ouais. Ouais. Mais il est encore jeune, par exemple. Là.
Très jeune.
Mais tu sais, tous les matchs de une heure qui finissent avec des field goals bloqués,
c'est fou.
C'était n'importe quoi.
Record hier dans la NFL, c'est 9 bottés bloqués si on prend les bottés de placement, de dégagement. C'est un record dans une semaine. Et c'est 6 retours au total si on compte les interceptions pour des touchés.
Incroyable. Il y a une game ce soir. Hein?
Lyon-Ravens. Deux excellentes formations.
Qui va gagner ça, les gars?
Moi, je parle Lyon. Là.
Oh, les Lions, OK.
Ouais, les Lions étaient surprenants. Ouais. Ben, surprenants. Ils sont revenus en selle la semaine dernière. Je vais avec les Ravens. C'est à Baltimore. Je pense que les Ravens vont bien écouler le terrain avec la course au sol.
On se donne rendez-vous sur Messenger ce soir, les amis. Qui avait raison? David Chabot, on parle de la guerre, toi et moi, entre Israël puis le Hamas, qui s'est transformé en Israël-Palestine, Gaza. On en est rendu où dans le dossier? Puis pourquoi les gens se posent la question à savoir s'il faut reconnaître l'État d'Israël, l'État de la Palestine. Puis, c'est quoi les impacts quand on reconnaît la Palestine comme étant un État pour l'international?
C'est une question fondamentale. Hein. Tu parles pour le conflit, premièrement. Ben, on le sait, là, Israël a envahi, là, je le mets quasiment plus en guillemets, là, Gaza, a dit à tous les Gazaouis, je crois que c'est comme ça qu'on dit ça, ben, prenez vos affaires puis sortez parce que ça va brasser tantôt. Donc, c'est littéralement une conquête par le sol. Puis, c'est pas mes mots, dans le fond, là, c'est les mots du gouvernement israélien. À savoir qu'est-ce qui va se passer après, évidemment, on connaît tout le temps les projets de Côte d'Azur gazaoui de Trump, là, mais le après n'est pas clair. Mais pourquoi reconnaître l'État d'Israël, de la Palestine? On fait tout le temps l'absurde, tu l'as fait, je l'ai fait, parce que là, c'est tout le temps un conflit bien proche. Qu'est-ce que ça change? Là? Qu'est-ce que ça donne, comme dirait l'autre? Là? C'est que en ce moment, la Palestine a comme un statut un peu hybride. T'sais. Il occupe un territoire, il y a un gouvernement reconnu qui est le Hamas, mais qui est aussi un état, une organisation terroriste. Donc là, c'est comme pas clair leur relation diplomatique. Là. Il y a certains pays qui les reconnaissent, il y a des ambassades dans certains pays à l'international, d'autres non. Donc c'est comme une espèce de gouvernement avec un territoire qu'il aurait plus ou moins reconnu, puis Israël peut rentrer là sans trop violer le droit international dans certaines missions, mettons, ponctuel, c'est un peu bizarre. Donc là, quand tu reconnais cet État-là, tu lui dis, regarde, je veux que tu aies ton siège à l'ONU. Je veux que tu sois un État à pleine valeur. Je veux que tu aies des ambassades à travers la planète où est-ce qu'on puisse avoir des relations de gouvernement égaux à égaux, égal à égal, moi, je déparle un peu. Donc, cette modification-là de l'approche fait en sorte que ça diminue un peu le levier d'Israël par rapport à la Palestine. Parce que là, pour l'instant, il y avait une relation de pouvoir assez intense où ce que Israël pouvait faire à peu près ce qu'il voulait avec la Palestine. Puis comme le pays n'était pas reconnu, je parle de la Palestine, comme ce n'était pas un État reconnu, ben, les autres étaient un peu malvenus, là, la communauté internationale, de dire à Israël quoi faire ou ne pas faire parce que ce n'était pas un territoire avec un gouvernement légitimement reconnu à l'ONU, tu comprends? Donc, c'est pas vraiment une guerre entre deux États, c'est plus Israël dans sa cour arrière, dans un genre de statut un peu flou. Là.
Les conservateurs au Canada, et c'est leur ligne de parti depuis le début, disent on ne peut pas reconnaître l'État palestinien tant que le Hamas est au pouvoir. Oui. T'en penses quoi?
Ben, c'est un peu l'œuf ou la poule, là, mais je suis assez d'accord qu'en ce moment, le problème qu'on a, c'est que là, il y a quatre grands pays là, qui ont reconnu, au secours, qui vont le faire dans les prochaines heures, là, la Grande-Bretagne, le Canada, le Portugal.
La France.
La France, il y a des conditions
par
rapport
c'est
à ça. Puis l'Australie qui vont le faire. Là. Les quatre vont dire oui, c'est correct. Puis la France, il y a certaines conditions par rapport justement au Hamas puis tout ça. C'est parce que la Hamas, en étant une organisation terroriste, ben, c'est pas un gouvernement légitime, même s'il a été élu semi-démocratiquement là, sur place. Donc là, tant qu'on va maintenir ce gouvernement-là en place, ben, l'attitude va être hostile envers Israël, finalement, puis il n'y aura pas de façon de régulariser la relation entre les deux pays. Mais là, t'sais, Israël est tellement allé loin dans son intervention que là, finalement, Gaza, c'est un parking en ce moment, que c'est quasiment impossible de remettre la pâte à dents dans le tube. Là. Donc là, on est rendu dans une situation où, que peu importe c'est qui le gouvernement, faut faire quelque chose pour dire que là, arrête de taper sur la tête puis d'envoyer des bombes. Puis après ça, on va essayer de normaliser les relations, puis plus tard, on essaiera de mettre un meilleur gouvernement en place. Parce que là, je veux pas tomber dans trop la politique locale, c'est un peu compliqué, là, mais il y a le Hamas, puis il y a le Fatah. Puis c'est deux... Mettons, c'est... À l'extrême, là, c'est le PQ puis c'est le PLQ. Là. Tu sais, c'est deux complètement philosophiques.
Avec des visions différentes, c'est ça.
C'est ça. Puis le Fatah, ben, c'était... je veux dire son nom qui est bleu poudre derrière lui tout le temps. Là. Yasser Arafat, qui était le leader de ça. Puis il y avait quand même un discours qui allait vers la normalisation des relations dans les années 80-90. On a passé vraiment proche d'avoir une solution à deux États. Bill Clinton était très actif là-dedans. Puis là, finalement, le Hamas a sacré de l'huile dans le feu, tout aurait explosé, puis on est revenu à la situation actuelle. Donc, je pense que un gouvernement éventuel du Fatah pourrait être beaucoup plus stable, beaucoup plus raisonnable dans ses relations avec l'extérieur.
Mais ils vont rebâtir comment? Ça va être impossible. Quand tu regardes les images de Gaza, il ne reste plus rien de bout.
Ça n'a aucun sens.
Ouais, ben, ils ne pourront pas le faire par eux-mêmes. Donc là, clairement, ça va prendre une genre de... Je veux pas dire une tutelle, parce que là, c'est une prise de contrôle, mais un genre de plan Marshall international. Okay.
Mais si les Américains embarquent pas? Parce que probablement que si la Palestine est reconnue comme étant un État, les Américains embarqueront pas là-dedans, Israël non plus. Il n'y a pas une scène qui va partir d'eux autres.
Ben, c'est drôle à dire, hein? Je ferais quasiment un plan stratégique pour la Palestine, comme tu peux faire dans une entreprise, parce que là, tu repars tellement de zéro qu'il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ce éventuel pays-là. C'est quoi les ressources, c'est quoi le... T'sais, dans le fond, Trump n'a pas 100% tort de dire que le tourisme pourrait être intéressant dans cette région-là si on fait abstraction de la politique.
Parce qu'ils sont sur le bord de la mer. Là. Il y a quelque chose de potentiel là-bas, mais je veux dire, il faut reconstruire.
Là. Ben oui, absolument. Puis là, tu sais, le peuple qui est là, est-ce qu'ils vont vouloir rester là? Parce que là, à Gaza City, là, il y a encore des centaines de milliers de personnes qui vivent là. On leur dit sortez, 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 tout va péter. Mais après ça, ces gens-là, ça devient des réfugiés, ça devient une diaspora. Là, ils vont peut-être vouloir revenir dans ce pays-là. Donc là, le futur n'est pas clair, mais ça va clairement prendre la communauté internationale.
Est-ce que les États-Unis ont mal accompagné Israël là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ont laissé aller trop loin?
Bien, historiquement, le gouvernement américain encadre beaucoup Israël dans ce genre de choses-là. Biden l'a fait beaucoup dans le passé avec Netanyahou.
Tu parlais de Bill Clinton qui l'a fait beaucoup aussi.
Oui, absolument. Donc là, il y a comme une relation de grand frère, là. C'est pas tout à fait ça, mais quand même, là, qui fait en sorte que les États-Unis modéraient l'espèce de branche hardcore là, ultranationaliste. Là.
Parce que là, ce qui m'a surpris, c'est premièrement la première attaque sur l'Iran est venue d'Israël. Apparemment que les États-Unis n'étaient pas trop au courant. Et celle au Qatar, les États-Unis n'étaient pas pantoute au courant, ont été mis au courant juste avant que ça se fasse. Ouais. Ça, avant, ça se faisait pas. Israël devait avoir l'approbation des Américains avant de faire ces genres de frappes-là.
Oui, dans la majorité des cas, de façon formelle ou informelle, mais c'est une relation tellement étroite. Puis les États-Unis envoient de l'argent et de l'armement à Israël depuis toujours, là. Est-ce que c'est encore nécessaire? Ça, c'est une autre question, là, parce qu'Israël est quand même...
Oui, quand même puissant. Là.
Ouais, ils sont assez riches, dans le fond, pour être autonomes. Puis en les finançant comme ça, on vient comme valider, si on veut, leur position par rapport aux attaques que tu viens de décrire. Là. Il est temps, mettons, que quelqu'un, quelque part, dise « Hey, là, gang, calmez-vous. »
C'est assez, là, c'est ça.
Puis à peu près, juste les États-Unis qui ont ce levier-là. Puis je ne sens pas cette volonté-là de l'administration en ce moment. Le lobby israélien est très, très fort, là. À Washington, sont très, 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 très forts, surtout avec des gouvernements républicains. Mais d'habitude, ils sont capables d'aller un petit peu plus loin que ça, puis s'élever, avoir un sens de l'État. Là, en ce moment, on ne l'a pas vraiment, ce sens-là. Fait que là, Netanyahou et sa gang, ils font à peu près ce qu'ils veulent en Palestine.
Est-ce qu'on pourrait mettre, parce que les Américains, ce ne serait pas la première fois qu'ils mettraient un gouvernement en place qu'eux-mêmes ont choisi, là. Est-ce qu'ils pourraient faire ça sans trop avoir de problématiques avec les autres pays autour?
Tu parles en Palestine ou en...
En Palestine.
Ouais, ben, tout est possible, sauf que là, après ça, une fois que les bombes arrêtent de tomber, là, on est rendu en reconstruction, puis là, tu mets un gouvernement, mettons, décidé par quelqu'un d'externe, tu vas faire la même chose qu'en Afghanistan puis ailleurs, tu vas dire, ben écoute, tu sais, dans le fond, les gens locaux vont dire, ben ce n'est pas mon gouvernement. Fait que soit qu'ils vont se laisser aller parce qu'ils sont tellement épuisés après des années de guerre que là, ça va s'arrêter là, puis que là, ils vont se laisser gouverner jusqu'à temps qu'il y ait assez de volonté populaire pour changer les choses. Ou qu'il va y avoir une révolte déjà initialement, dès le jour 1, quand on va dire « Garde ça, c'est votre gouvernement, puis vivez avec. » un bon exemple, c'est justement l'Iran. T'sais, quand il y avait le Shah d'Iran dans les années 80, ben, il y a eu une révolte populaire. Puis là, oui, ça a été soutenu par certains mouvements qui étaient très théologiques, mais la population sortait dans les rues pour dire « je ne reconnais pas ce gouvernement-là », puis ça peut faire la même chose en Palestine.
C'est une vision occidentale qu'on a quand on a l'impression que les pays autour, ils ont l'air à tout ce sacré éperdument de la Palestine.
Je pense que c'est complètement l'inverse au sens où tout le monde est préoccupé par ça, mais personne ne veut se mettre le doigt dedans.
Okay. Parce qu'ils ne voulaient pas accueillir les réfugiés. Ils ne voulaient pas en avoir chez eux parce qu'ils disaient que c'était les réfugiés qui étaient problématiques chez eux.
Ouais.
Fait que c'est une vision occidentale, c'est-tu les médias qui rapportent pas la bonne nouvelle? Parce que tu me dis, non, je pense que c'est le contraire.
Ben, tu sais, mettons, je vais faire un parallèle peut-être un peu douteux, là, mais tu sais, quand il y a eu les vagues d'immigration ici, au Canada, puis aux États-Unis, il y a eu le chemin Roxham, on était tous un peu mal à l'aise avec ça, comment ça se passait, c'était-tu légal, illégal, irrégulier?
On leur dit-tu vraiment non?
C'est ça. Puis là, tu sais, nous autres, on a l'avantage d'avoir deux immenses océans des deux bords. Fait que si tu veux venir chez nous, faut absolument que tu traverses l'océan, c'est un projet, là. Dans cette région-là, ça se fait à pied. Là. Donc là, évidemment, c'est des bonnes marches, mais ça se fait à pied. Puis on l'a vu avec la guerre en Syrie, qu'il y a eu une masse d'immigration qui est allée en Europe. Là, il n'y avait pas de frontières à proprement dit. C'est l'espace Schengen. Puis là, ils sont pognés avec ça, on va dire, parce que ça a créé des dynamiques sociales vraiment toxiques. Puis là, mais les autres pays autour de la Palestine pensent à la même chose, parce que ces gens-là, forcément, ils arrivent avec une valise dans les mains, un enfant sur l'épaule, puis qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Fait que c'est tough là, de gérer ça. Fait que c'est sûr que l'Égypte et la Jordanie, ils veulent pas devenir une espèce de levier pour accueillir ces gens-là, à moins d'être vraiment forcé, parce que sinon, ça devient un problème temporaire qui va devenir permanent à long terme, puis ils comprennent ça. Là.
David Chabot, c'est toujours un plaisir si tu regardes la game du Canadien ce soir.